Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Une nouvelle semaine qui commence et un nouveau Time Sport ce soir en ce lundi 27 septembre. Et oui, chers auditeurs et auditrices, ce soir comme d'hab, durant une heure, on ouvre le standard avec le 01 53 48 3000. Voilà, vous pouvez le composer. Yannis se fera un plaisir, notre réalisateur, de vous faire passer à l'antenne. Au menu de cette émission ce soir, eh oui, OM lance le plus beau match de ce début de saison en Ligue 1 Uber Eats. Gros week-end de boxe et qui dit boxe dit Monsieur Lustig, eh oui, qui sera avec nous pour revenir sur cette fameuse rencontre, ce fameux combat entre Joshua Usyk à Londres, le PSG ce mardi soir, mais avant mardi, Neymar Mbappé toujours compatible, non selon certains aficionados. On poursuivra avec le réveil des Gunners d'Arsenal en Première Ligue, sans oublier la 100e victoire de Lewis Hamilton. C'est parti, Gogo Time Sport et place au JT de Jason.
Time Time Sport.
Bonsoir à tous, on démarre 7 minutes info par la Ligue 1 bien évidemment, avec un bilan déjà de 233 buts inscrits au bout de 8 journées. Cela n'était plus arrivé parmi l'élite depuis 1979. On passe à la Ligue des Champions qui fait son retour mardi soir et le PSG qui pourra enfin compter sur Léo Messi, bien remis de sa blessure. Idem pour Marco Verratti qui devrait réintégrer le groupe parisien pour le choc face à Manchester City. Dans un autre choc de Ligue des Champions face à Chelsea, la Juve, quant à elle, devra faire sans son maître à jouer, Paulo Dybala et Alvaro Morata, tous deux blessés face à la Sampdoria ce dimanche. Vous l'avez sûrement entendu dimanche également, Samir Nasri prend donc officiellement sa retraite à l'âge de 34 ans, après avoir remporté notamment deux premières ligues avec Manchester City et disputé 41 rencontres sous le maillot bleu. Et enfin, une pensée aux proches du jeune pilote Dean Berta Vinales, décédé à seulement 15 ans lors d'une chute mortelle samedi pendant la course de Supersport 300 à Jerez. C'est tout pour ce soir. En vous souhaitant une bonne émission en compagnie de Bilal et un bon début de semaine sur Beurre FM.
Dors avec moi pour m'accompagner. On aura sur ce magnifique plateau notre consultante Frédéric. Comment ça va Frédéric ?
Ça va au top et toi Bilal ? Bonsoir à tous.
Ça va très très bien. Vic Neige, a-t-il passé un bon week-end ?
Salut Bilal, salut tout le monde. Très très bien. Une grosse actualité sportive. Donc là on est au rendez-vous. On a beaucoup de choses à dire.
Eh oui, Juan Trossé, il est là avec nous ce lundi soir.
Hola, buenas tardes, enchanté d'être avec vous.
Semaine de Coupe d'Europe, Juan Trossé.
Tout à fait, avec le PSG, Lille après, mais il y a aussi les équipes espagnoles.
Ah, faut
et
pas les oublier.
Le Séville, qui est dans le groupe de Lille.
Bien sûr, Boula est avec nous ce soir. Comment ça va, Boula ?
De là, tout va bien.
Voilà, le même refrain tel que un certain Lafouine. Ça fera plaisir à Jouba qui nous écoute depuis la Réunion, Boula, et qui te passe le bonsoir. Et Hervé. Voilà, avec nous aussi, Hervé, comment ça va ?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous les auditeurs. Une grande semaine sportive s'annonce avec la Coupe d'Europe. Je crois qu'on va bien s'amuser cette semaine.
Allez, direction Marseille.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. Eh oui, Frédéric, malgré un Dimitri Payet déchaîné en fin de première période, Laissant et Or et Florian Sotoka et Seko Fofana ont réalisé un grand exploit du côté de Marseille dans leur antre qui est l'Orange Vélodrome.
Je parlerai même pas d'exploit parce que je pense que Lens a largement mérité cette victoire.
Ah oui.
On a vu quand même tactiquement une équipe de Lens bien en place qui a réussi à dominer les débats. On a vu tous les ingrédients dans ce match. Il y a eu du suspense, des rebondissements, un presque retour de Marseille et puis au final, Wesley Saïd qui marque un beau but qui crucifie Marseille. Mais quand on voit la communion avec les supporters à la fin marseillais qui sont restés longtemps avec les joueurs, je pense que Marseille a retrouvé quand même du cœur, à retrouver une communion, à retrouver du jeu. Mais bravo à Lens qui est deuxième au championnat et qui mérite largement cette deuxième place avec encore une grosse performance.
Oui, alors Vignesh.
Lens, en fait, pour moi, ils ont fait un très beau match. C'est Franck Hez, l'entraîneur. Il a mis une bonne stratégie en place. Il a fait reposer Kakuta, Jonathan Clauss qui était sur le banc, qui sont rentrés et qui ont fait la différence. Sur les côtés, entre autres, Marseille, on a vu qu'à la fin du match, sur les côtés, c'était le grand boulevard. Donc après, je pense que les latéraux ont y contribué énormément. Mais Marseille, Payet, il a été monstrueux, il a fait un gros match, penalty, coup franc. Le coup franc, il est très beau, rien à dire dessus. Mais après, au niveau du jeu, Marseille, ça a été plus délicat. Il y a eu le début de deuxième mi-temps où ils ont été très bons.
Ouais.
Mais après, le reste, ça a été assez fébrile, mine de rien. Il y a de nombreux joueurs, ils n'ont pas été à la hauteur. Guendouzi, Pape Gueye,
Fanny. Ah oui, selon terrain, toi.
Ils n'ont pas été à la hauteur. Je ne sais pas si c'est physique ou c'est à force de continuer les matchs, ils ne sont pas en forme. Mais Marseille, un coup de...
Enfin, sans parler, on demande trop peut-être à ces
peut-être
joueurs.
Peut-être un peu trop aussi,
de la fatigue,
mais ça se voit. Le dernier quart d'heure, ils ne sont plus à la hauteur. Le dernier quart d'heure, ils ne sont plus du tout à la hauteur.
Ouais, ça, c'est donc, pas bon pour le match
d'Europe. Il y a aussi les changements de Lens qui ont fait la différence. Donc après, il faut voir dans la continuité. Cette semaine en Europe, déjà
alors,
pour Marseille.
Hervé, on l'écoute avec Juan Trossé.
Alors moi, ce que je retiens de ce match d'hier, qui a vraiment été un super match, Charles Fulgini, on a souvent critiqué la Ligue 1 pour son niveau de jeu, et force est de constater que depuis le début de saison, on assiste quand même à de grands matchs. Moi, je retiens de cette rencontre trois points principaux.
Alors lesquels ?
Le premier point, c'est la prestation XXL de Seko Fofana. On parle pas assez de ce joueur, mais je pense qu'il a été énorme hier. Franchement, il m'avait un peu déçu. Je l'avais vu, je crois, contre Paris il y a quelques semaines en arrière. Et là, hier, il m'a vraiment impressionné. Donc, je tiens vraiment à le mettre en exergue. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est la fébrilité de Gerson.
Oui.
Alors, je sais qu'il est venu avec l'étiquette de star. Il a été acheté 20 millions. Mais force est de constater que depuis le début de saison, c'est clairement le maillon faible de l'équipe phocéenne. Et la troisième chose que j'aimerais mettre en avant, ce sont les mauvais choix de Sampaoli. Je sais qu'on vit à l'heure de la polyvalence. Sais qu'on vit à l'heure de l'interchangeabilité, où on joue avec des faux neufs, des faux ailiers, des faux latéraux. Mais à un moment donné, ce serait bien quand même de mettre les joueurs à leur place. Quand je vois Valentin Rongier piston droit, quand je vois Gerson piston gauche, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Quand je vois également les changements qui ont été faits en deuxième mi-temps, qui n'ont pas semblé audacieux, enfin qui n'ont pas semblé pertinents, tu fais sortir Bamba Dieng, qui était l'un des attaquants les plus remués en attaque pour faire rentrer Amin Harit. Tu laisses sur le terrain Gerson, qui a été catastrophique. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Après, voilà, je reste persuadé que cette équipe marseillaise, malgré la défaite, va quand même nous faire vivre de très bonnes choses, de très bonnes émotions durant cette saison.
Il reste pas pessimiste, Hervé. Point Trossé. Alors, moi, pense-tu le contraire, alors?
Non, moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai lu le conducteur, c'est OM Lens, le meilleur match du championnat. Et je me suis dit, j'ai dû rater un truc parce que ça n'a fait que 8 journées de championnat. Et en regardant le match.
Oui, une dizaine.
Et en regardant le match, effectivement, je me suis dit, c'est certainement pas le meilleur match. Mais je suis encore plus perplexe après avoir écouté Hervé qui vient de nous dire tout en intro. Oui, superbe match, mais après personne n'était à son poste. Les joueurs qui étaient sur le terrain n'étaient pas
un peu avec Nes aussi.
C'était pas un grand match. C'était un match avec enjeu, forcément, puisque Lens se retrouve aujourd'hui dauphin du PSG. J'avais un vrai enjeu, mais je pense qu'effectivement les équipes sont encore, et notamment pour Marseille, un peu en rodage. N'oublions pas que ils n'ont pas les mêmes objectifs, Marseille que Lens.
Juste pour répondre
le droit de réponse. Boula et Frédéric.
La parole à Boula qui voulait s'exprimer.
Bien sûr, on va le laisser.
L'une des particularités de cet Olympique de Marseille, c'est ce déséquilibre constant, en fait, qui fait aussi bien sa force que sa faiblesse. Donc, il y aura des jours où ça va passer, comme ça a été le cas contre Monaco et contre d'autres adversaires. Et puis il y aura des soirs où la machine va s'enrayer, où il y aura un peu plus d'imprécision, où il y aura un peu moins d'efficacité dans les deux surfaces, comme ça a été le cas hier. Mais je reste persuadé que cet Olympique de Marseille est vraiment séduisant. Faut pas oublier l'abîme dans lequel se trouvait Marseille au printemps dernier.
Ouais.
Je pense qu'on ne souligne pas assez la progression de cette équipe. Je sais pas ce que tu penses, toi, Boula.
Moula, on l'écoute, Boula.
Moi, je dirais que Lens, ils ont réussi un super coup. Moi, je pense qu'ils ont réussi un super coup. Ils venaient de perdre contre Strasbourg chez eux. Et moi, tout ce que je vois dans ce match-là, je vois le travail de Hez, Franck Hez. L'année dernière, il avait fait un gros travail et là, il est en train de confirmer son travail par la qualité des joueurs et la qualité du directeur sportif de Lens d'avoir pris les joueurs qu'il fallait. Comme le Polonais, qui a des qualités techniques de footballeur. T'as le Fofana quand il dit ouais il s'est perdu, mais après qu'est-ce que tu veux, quand t'as les agents qui le mettent dans club, il se retrouve avec un coach ou qui s'épanouit ou qu'il arrive à retrouver toutes ses qualités qui hier on a vu qu'un joueur quand il était bien pris en main et dans le club qu'il fallait, et ben ça fait la grosse qualité de ce joueur. Et ce que j'aime bien en Lens, parce que bon je connais très bien le club, c'est quand même un club qui sont montés de D2 à D1 avec le problème du Covid, le championnat il s'est arrêté. Quand tu regardes l'année d'après, ils sont en D1, ils font un super championnat et aujourd'hui ils arrivent à battre Marseille avec une grosse équipe. Quand je dis une grosse équipe, j'ai vu que Marseille était dans la difficulté Parce que quand on dit, quand j'ai vu 67% du ballon de Marseille et 42, moi quand je regarde la qualité intrinsèque et le jeu de, qu'a employé Lens, tactiquement ils les ont bouffés, ils les ont bouffés. Et alors, après, je reviens à ce que dit Hervé, au niveau des changements, au niveau des changements, c'est là qu'il y a un hic au niveau des changements quand tu sors Dieng. Tu fais rentrer un milieu, c'est-à-dire que tu te retrouves sans attaquant. C'est-à-dire que tu as besoin de marquer un but et tu te retrouves sans attaquant. Ouais. Tu fais rentrer un milieu relayeur,
Frédéric,
et qui est pas du tout attaquant. Et puis je suppose qu'il est mal rentré. Et un qui m'a déçu, c'est Guendouzi.
Guendouzi, voilà. Il a déçu. Aboula, oui, à Frédéric.
Alors, ce que Boula dit,
vas-y.
Moi, je pense que Lens finalement a montré les carences de Marseille, parce qu'on a vu quand même que cette équipe, c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Mais on attendait de voir Marseille dans un gros match pour voir finalement les lacunes de cette équipe. Et on se dit, chaque fois qu'elle va rencontrer une équipe qui va avoir un bloc solide, qui va réussir, comme tu parlais de Guendouzi, on ne l'a pas vu, parce que Fofana l'a éteint. C'est-à-dire que Guendouzi fait une super saison, mais il s'est retrouvé en difficulté tout le match. Donc je pense que ce qui va être...
Pas une saison, mais un bon début de saison.
Ça fait 8 matchs, d'accord. Il est
déjà, on commence un peu.
On va lui souhaiter de faire une belle saison, ça fait 8 matchs.
Ouais, tu as raison.
Mais je pense que ce que Lens a montré, c'est ça. C'est-à-dire sur quoi Marseille va devoir travailler pour pouvoir être régulière tout au long de la saison et pour pouvoir prétendre à la Ligue des Champions. Mais pour rebondir aussi sur ce que disait Hervé, on a vu un changement quand même de cette équipe marseillaise entre la saison précédente où c'était un désert absolu et Marseille n'aspirait pas à grand chose, arrive à accrocher miraculeusement une place en Europa League. On se disait, mais qu'est-ce que cette équipe va nous proposer? Et grâce au recrutement qui a quand même été vraiment bien fait, on a une équipe qui est relativement équilibrée, qui a beaucoup de qualités, notamment offensives. Et je crois que Marseille va nous faire une belle saison. Et Lens aussi, ça va être une équipe à suivre qui l'année dernière s'est loupée de peu pour arriver en Europa League. Donc je pense que cette saison, s'ils arrivent à être réguliers, ils pourront encore progresser.
Eh oui, Fala et aussi Nadia, sans oublier Idir, des auditeurs fervents de cette émission qui est Tom Sport, sont tout à fait d'accord avec toi, Frédéric. On le rappelle, Hervé, Lens, il avait dit, en tout cas, Fala, ça travaille sérieusement et surtout, c'est très cohérent. Et leur projet aussi, ça me rappelle le Nancy de 2006, 2007, voire 2008 et 2009. Ouais. Hervé, Juan José.
Juste un petit mot sur Marseille, après avoir écouté effectivement Frédéric. On doit tenir compte, je disais, ils n'ont pas les mêmes objectifs, les deux clubs. D'autant plus qu'on vient d'une semaine, on a joué au milieu de semaine, là, ils ont joué le week-end. Là, Marseille va retrouver Galatasaray en compétition européenne. Donc, c'est une semaine un peu particulière pour Marseille. Je peux comprendre aussi qu'au bout des 8 matchs, l'équipe ne soit pas encore tout à fait rodée. C'est la réalité. Donc, encore une fois, Lens et Marseille ne sont pas du tout au même niveau. Je pense au niveau de la préparation, Lens est meilleur, peut-être meilleur physiquement que Marseille. Mais l'envie, elle est toujours du côté marseillais.
Oui, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre.
Alors, c'est quoi que tu n'arrives pas à comprendre?
Quand tu dis l'équipe allait parodier, je sais pas moi, ils sont dans le haut niveau là. Là, t'es pas en amateur. Là, il faut qu'ils soient prêts. C'est-à-dire qu'ils ont des mois.
C'est normal de pas être rodé quand c'est une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs et qu'on est à 8 journées de championnat.
C'est la réalité.
Non, mais quand
ils disent, physiquement, ils sont pas au top. Écoute, on ne va pas te raconter ça. Tu connais très bien comment on prépare les équipes des premières divisions, professionnels. On prépare.
Tu crois que les grands clubs comme Chelsea ou des ça, ils vont dire non, on n'était pas prêt.
Mais la profondeur des bancs n'est pas la même.
Mais tu ne vas pas
comparer Marseille avec Chelsea.
Marseille, c'est pas Chelsea ni le 11 type de Manchester United.
Quand je vois Lens hier, le recrutement, il est réussi.
Oui.
Quand je vois Lens sur les joueurs, sur un joueur comme Fofana,
il était d'accord avec ça,
réussi. Alors quand c'est pas un joueur qui leur a coûté cher. Hein.
Alors Hervé, on poursuit avant la pause.
On aura aussi d'accord avec ce que disait Juan José.
Oui.
Comme
et
le disait justement tout à l'heure, pardon. Boula, je pense que la grande réussite de Lens hier, c'est d'avoir réussi à neutraliser Marseille tactiquement. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, ils savaient que Marseille jouait à 3 en défense. Ils ont mis 3 attaquants. Donc déjà à partir de là,
tu empêches les sorties de relance de Balerdi ou de Saliba. Et au milieu de terrain, ils ont réussi à gagner la bataille du milieu de terrain avec Fofana en figure de proue. Moi, j'aimerais pas qu'on utilise le match d'hier comme prétexte pour dénigrer le début de saison de Marseille. Encore une fois, voilà. Franchement, Marseille est vraiment dans la progression. Il y a vraiment une vraie évolution depuis le début de saison. Donc, je pense que commencer maintenant à tout jeter, à tout voir négativement, je trouve que c'est vraiment une grosse erreur. Je pense que Marseille a le défaut de ses qualités. D'ailleurs, quand tu regardes Marseille, tu sais pas dans quelle composition il joue. Oui. S'ils jouent en 3-5-2, en 3-1-6. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec
eux. Hervé.
Il n'y a pas d'attaquant. Tantôt, c'est Dieng, tantôt, c'est Payet, tantôt, c'est Harit quand il rentre. En fait, il y a du mouvement permanent, en fait. Il y a un déséquilibre permanent qui, comme je le disais tout à l'heure, parfois va leur sourire, parfois va pas leur sourire.
Par contre, je rajoute juste un petit truc.
Vas-y, voilà.
Il y a Camara qui n'était pas là.
Ouais, c'est vrai.
Et Camara.
Tu fais bien de le
souligner. C'est quand même.
Et de le
rappeler
aux auditeurs de BorFM.
Ouais, mais Camara, on peut dire ce qu'on veut. Mais hier, il n'était pas là. Et c'est la première fois qu'il n'est pas là. Et regarde Marseille dans quel.
Ouais. La comparaison, ça, comme c'est quand même avec bien ça, hein, Hervé. C'est Mourad qui nous le dit, un auditeur.
C'est un peu opportuniste. Oui, Frédéric. C'était l'absence de Camara, c'est pas non plus l'élément décisif.
Bah, aussi. Si, un peu. Mine de rien.
Juste pour terminer.
Alors, vas-y, Frédéric.
C'est le vrai Marseillais. C'est le vrai Marseillais.
Boula.
C'est le produit du club. Et c'est un mec, quand il fait ses matchs, il a toujours été à la hauteur.
Allez, Frédéric.
C'est pas non plus le meilleur joueur de Marseille. Juste pour terminer, comme on disait, tout n'est pas à jeter. Et en plus, l'Olympique de Marseille a quand même un match en moins. Ça veut dire que si l'Olympique de Marseille s'impose contre Nice, ils repassent à la deuxième place.
En tout cas, mais d'accord. Mais non, mais là, tu regardes le résultat. Mais tu prends hier, on parle de Payet, il a mis deux buts.
Alors,
du coup de pied arrêté, penalty et coup franc. Dans le jeu, qu'est-ce qu'il a fait?
Si, dans le jeu, il est bon, Payet.
Celui qui a été fort.
Dans le jeu, il est bon.
Pour moi, c'est bon. L'écran, hier, c'était Fofana.
Rapidement, oui, mais avec Hervé. Allez, avec Hervé et Viknesh avant la pause.
Non, franchement,
Hervé.
Autant je suis souvent d'accord avec Boula, autant là, je suis pas trop d'accord. Je pense que Payet, c'est vraiment, il est vraiment transfiguré. Enfin, on l'a assez critiqué la saison dernière et tout. Pour ne pas mettre en lumière quand même son début de saison fulgurant. La seule chose que moi j'aimerais, que j'ai oublié de préciser, c'est le poste de gardien. Paul Lopez, il me fait peur quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si Marseille veut vraiment aspirer à jouer la Ligue des Champions la saison prochaine,
alors,
va falloir résoudre la problématique du gardien.
Merci Viknesh. Rapidement, on va essayer de prendre Karim aussi, un
du
auditeur
coup,
qui nous appelle depuis Lyon.
Pour être rapide, en fait, Marseille, en fait, l'avantage, c'est qu'ils nous font plaisir, il y a du spectacle, mais le problème dans le même temps, c'est qu'en fait, Marseille, on sait les problèmes, on connaît leurs inconvénients, leurs défauts.
Oui.
Et c'est sur ça que Lens a joué. Notamment, j'ai parlé du côté, et le milieu de terrain a été monstrueux. Doucouré, Fofana, ils ont mangé le milieu de terrain de l'OM. On les a même pas vus. Et sur les côtés, Frankowski, que Boula a parlé tout à l'heure, même Machado et Klose, ils ont vu les ouvertures sur les côtés. Donc c'est ça qui est intéressant. Franquez a joué sur les défauts de Marseille, et les qualités, la preuve, ils ont été payants parce qu'ils ont eu des occasions. Il y a une transversale pour Marseille, il y a eu des frappes à côté, il y a eu des arrêts de Leca. Donc Marseille aurait pu aussi gagner. Là, on va pas se mettre à critiquer Marseille parce que là, ils ont perdu. Depuis le début de la saison, ils ont fait plaisir et ils ont été bons.
Merci Viknesh. Avant la pause, rapidement, allez, il nous reste à peu près 2 minutes avec Karim qui a composé le 01 53 48 oui. 3000. Bonsoir Karim, comment allez-vous?
Bonsoir, bien et vous?
Ça va très très bien Karim, un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Beurre FM. On vous écoute concernant les Marseillais, pas les Lyonnais. Hein,
voilà, ouais, mais ça...
ça reste des Olympiques.
Allez-y.
Non, mais j'allais parler de vieillard. Non, je rigole.
Ah bah, allez-y.
J'allais dire simplement, moi j'ai vu le match de Marseille, et moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails sur tel ou tel joueur. Moi, je veux dire, j'ai fait du sport de compétition, j'ai fait du tennis. J'ai fait de la compétition. Et je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, j'ai joué un joueur, vous savez quoi? Toutes les balles que je mettais, directement, il m'a envoyé un coup droit à revers gagnant. Dès ce match, du fond du court. Je me suis dit, comment il faut faire? Et ben, j'ai vu un peu qu'il avait un revers un peu juste. Pendant 10 minutes, j'ai joué. Je savais que c'était mentalement qu'il fallait le faire perdre. Et dès qu'il a perdu ce jeu, alors qu'il avait gagné 6-1 le premier set, j'ai gagné 6-1. Tout ça pour vous dire, quand j'ai vu Marseille rentrer, Rennes, ils ont joué dans la profondeur. Ils les ont pris à la gorge. Tout de suite. Ils leur ont imposé un rythme. Ils sont allés à la cage. Marseille, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cette équipe, elle joue comme ça dans la profondeur qu'elle les attaque. Ils ont mis du temps à riposter. Et moi, je dirais simplement tout que des fois, le sport, on rentre dans les détails, mais mentalement, si on montre pas à l'adversaire qu'à un moment donné, il faut stopper dans son élan, il peut nous bouffer. Et moi, j'ai vu le match, et Marseille après a inversé, là où ils ont marqué, et en fin de match, je pense, Ils ont lâché. Moi, j'attends une grande importance
Karim,
mentale.
Une petite question, Karim. On parle de Marseille. Grosse poule en Europa League. On a Jason qui nous disait justement, il n'y aura pas peut-être moyen de s'économiser pour les Marseillais. Vous en pensez quoi?
S'économiser, qu'est-ce qu'il veut?
Ah ben justement, avec les joueurs, le banc, voilà, ils n'ont pas, vous savez, ils n'auront pas, par exemple, voilà, le même banc que le PSG a, quoi, une deuxième équipe, un deuxième 11, quoi.
On parle du PSG, arrêtez avec le banc du PSG.
Ben, ils ont la surprise peut-être.
Ils ont fait un travail de recrutement, ils ont des jeunes, ils ont, je sais pas comment.
On parle de l'OM, là, Boula, s'il te plaît, avec l'auditeur.
Oui, mais là, il y a quand même de la matière, quand même.
Ouais, il y en a qui ne le pensent pas.
T'as Camara, Kalaitachar, Alvaro en défense, t'as Amavi qui est blacklisté, on sait pas pourquoi. T'as Luis Gustavo Conrad qui est remplaçant. Franchement, t'as vraiment de quoi jouer de tableau.
Karim, merci pour votre appel. On essaiera de vous reprendre durant la semaine. C'est un plaisir à chaque fois de vous avoir sur l'antenne de Beurre FM. On va faire une courte pause avant d'accueillir Monsieur Lustig sur l'antenne de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM après cette courte pause, toujours là avec notre consultante Frédéric Boula, Hervé, Juan Trossé et sans oublier Viknesh. Allez, on prend la direction de l'invité de ce soir.
Time Sport, The Special One.
Viknesh. Eh oui, c'est notre connaisseur, fin connaisseur du noble art, c'est monsieur Jean-Philippe Lustig, auteur du magnifique livre, le grand livre de la boxe aux éditions Marabout. Bonsoir Jean-Philippe, comment allez-vous?
Bonsoir Bilal, en pleine forme.
Eh ben justement, Jean-Philippe, il y a eu un très gros combat, une belle réunion du côté de Londres, dans la capitale britannique, ce samedi, où on a pu constater que Usyk, Alexander Usyk, pour les ceintures WBA, IBF et WBO des lourds, ont remporté justement, il a remporté ce fameux combat face au Britannique Anthony Joshua, qui a déclaré tout de même dans la foulée ce dimanche qui voulait une revanche face à l'Ukrainien. Sur ce combat, justement, est-il préparé? Est-il assez bien préparé pour ce combat? Ou peut-être, voilà, on arrive à une fin d'une époque, d'une ère, quoi, Jean-Philippe?
Alors, Bilal, alors, c'est un sujet très intéressant. Alors, Anthony Joshua, star incontestable de la boxe aux États-Unis, j'allais dire dans le monde entier, spécialement en Grande-Bretagne, puisque tout seul, il déplace entre 60 000 et 80 000 personnes juste sur son nom. Il était 64 000 à Tottenham dans le stade de foot, donc samedi soir. Il y en avait 90 000 à Wembley il y a 3 ans, à Cardiff, il en a fait 80 000. C'est vous dire l'impact qu'a donc ce multiple détenteur de 4 ceintures mondiales, 31 ans, ancien champion olympique.
Ouais.
Voilà, donc Anthony Joshua a été battu, non pas parce qu'il était mal préparé, non pas parce qu'il a sous-estimé son adversaire, mais tout simplement parce qu'il a été battu par meilleur que lui, et que Joshua a montré ses limites.
Ouais.
Tout simplement. Donc il y a l'avènement, je n'irais pas d'un crack,
ouais,
boxeur qui est bien plus méconnu sur un plan international, mais redoutable, cet Ukrainien de 34 ans,
dans
la catégorie inférieure des lourds légers, et qui l'a dominé dans tous les, je dirais, compartiments du jeu, comme on dit en football.
Ah voilà. Justement, monsieur Lustig, on a peut-être quelquefois des a priori vis-à-vis de ces combattants, que ça soit russe, ukrainien ou encore des pays de l'Est, un peu, vous savez, assez, si je peux me permettre du terme, Golgoth bien bâti, mais sans trop du style tel que par exemple on aurait pu l'apercevoir avec un Joshua ou encore face aux boxeurs sud-américains ou même nord-américains. Vous en pensez quoi? Ils sont tout de même bien préparés. C'est comme les frères Klitschko à l'époque.
Oui, exactement. Non, mais la comparaison est belle. Donc, il y a une école soviétique et une école particulièrement efficace et brillante au plus haut niveau, c'est l'école ukrainienne. D'accord? Donc, dans l'ex-URSS, à l'époque, il y avait donc cette boxe qui était très mécanique, très apprise, peu spectaculaire. Mais il y a toujours eu des boxeurs de talent et des boxeurs qui sortaient du lot. Et en Ukraine, il y a eu les frères Klitschko, les deux géants en poids lourd de 2 mètres, qui n'avaient pas une boxe très spectaculaire, très apprise, mais très dure à contourner. En revanche, il y a deux phénomènes depuis 10 ans qui sortent de ce pays de l'Ukraine. C'est Lomachenko dans les petites catégories, entre les plumes et les légers, qui est un phénomène, double champion olympique, brillantissime, mais une adresse et une coordination assez incroyable. Et il y a Alexander Usyk. Donc, il y a la dimension historique où ces boxeurs de l'ex-URSS sont solides, durs au mal, très sérieux, très rigoureux, et en même temps, ils sont inspirés. Il y a un talent, il y a quelque part un côté diamant chez Usyk comme chez Lomachenko, parce qu'ils savent tout faire, ils savent improviser, ils ont une boxe qui n'est pas apprise, qui est très inspirante, et comme ils ont gardé leur ADN de départ, c'est-à-dire le sérieux, la rigueur, la dureté, ça donne des boxeurs super forts, et Usyk en est l'illustration.
Ouais.
Tout simplement.
Frédéric avec nous, consultant dans cette émission, Jean-Philippe Lustig.
Oui, bonsoir Jean-Philippe, j'avais une question. Bonsoir. Alors justement par rapport au match, on a vu qu'Usyk, qui est pourtant pas poids lourd de base, il a beaucoup gêné Joshua, il a pris l'initiative constamment, et oui, on a vu un Joshua très timoré. Alors comment tu expliques que tactiquement Joshua était autant attentiste?
Alors bonne question, il y a deux raisons. La première, c'est que Usyk est un gaucher, donc ça veut dire qu'il boxe avec le poids droit en avant. Et c'est la première fois que Joshua affrontait un gaucher, curieusement. Il avait disputé 25 combats auparavant, il n'avait jamais rencontré un gaucher. Donc ça lui a posé un problème tactico-technique, même s'il avait mis les gants et avait des sparring. Mais ce n'est pas la même chose. Donc il y a eu cela. Et l'autre contrariété pour Joshua, et il n'a pas résolu ce problème, c'est la variété et la boxe pleine d'initiatives, très active, très créative et à chaque fois aussi à l'aise en reculant qu'en avançant, celle de Usyk, qui donne beaucoup, bien plus que son adversaire, et qui le contrait sans arrêt, qui déclenchait le premier. Donc il a été surpris. Pourtant, il le savait. Mais simplement, Usyk est plus fort. Et l'autre élément dont il faut bien avoir conscience, c'est que on dit oui, c'est un petit poids lourd. Mais il mesure 1m91, premier élément, 1m98 Joshua, et qu'ensuite il a été pesé à 100 kg. Ce qui veut dire que Usyk, lorsqu'il boxait avant dans la catégorie des lourds légers, il était à 90-91 kg, il a pris du poids. Il n'a rien perdu de sa vitesse et de son coup d'œil. Il allait boxer deux fois en lourd depuis deux ans, depuis qu'il a abandonné cette catégorie ultra dominée, puisqu'il a remporté toutes les ceintures mondiales.
Ouais.
Il était l'incontesté champion en lourd léger. Il a boxé deux fois. Et il a pris en gros 5 kilos entre du premier match au poids lourd jusqu'au combat devant Joshua samedi soir. Donc, voilà, donc c'est un vrai lourd. 1,91, 100 kilos, c'est un vrai lourd. Même si aujourd'hui les Wilder, les Fury, mesurent tous 2 mètres. Mais c'est pas gênant. Mais surtout, il a gêné Joshua. Et je pense qu'ils refont le match 10 fois. Usyk le bat 10 fois.
Oui, carrément.
Il est meilleur. Ouais. Il est meilleur.
Bien sûr.
Il est meilleur.
Ouais.
Et quand je disais qu'on a vu les limites de Joshua,
ouais,
non pas qu'on l'a encensé, on l'a surcoté, mais simplement, tout avait toujours été basé sur sa puissance.
Ouais.
Mais sa boxe, elle est moins complète. Et il ne changera pas d'ADN à 31 ans.
Ouais.
Et puis, il y a un autre côté. Bilal,
ouais,
je sais que vous aimez tous la boxe,
ah ouais,
dans le studio. Ouais. Il y a un autre élément qui est important. Usyk a faim. Usyk
n'est, ah ouais,
pas, entre guillemets, embourgeoisé. Il n'a pas gagné,
ah ouais,
des centaines de millions de dollars. Et c'est déjà le cas,
ouais,
de Joshua. C'est une star, Joshua. Et Usyk ne l'est pas. Donc, il y a un boxeur qui a faim. Il y avait le regard perçant, la confiance en lui.
C'est l'œil du tigre, quoi. C'est un peu le remake de Rocky 3. Oui. C'est ça, avec Stallone et. Oui.
Ouais.
Ouais. Ouais, mais c'est part, ça, on peut le comparer. Hein. Voilà, l'autre avait plus faim que l'autre.
Et quelque part, c'est l'histoire de la boxe. Et en même temps, il est dans un confort. Et Usyk ne l'est pas. Et ça fait 10 ans qu'il est dans un confort, Joshua. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne changera pas. Il peut encore un peu s'améliorer. Mais à mon sens, il a montré ses limites. Ça reste un très haut niveau, bien entendu. Mais l'avènement d'Usyk n'est pas une surprise en soi. Et ça fait du bien parce que ça suscite l'intérêt, ça fait du bien à la boxe. C'est bien que les choses soient parfois invisibles. Ouais. Voilà.
Jean-Philippe, alors, allez, on va terminer avec Frédéric.
Que cette défaite va faire du bien à Joshua et qu'il va sortir de sa zone de confort.
Ah, ça, c'est la grande question. Alors, oui, alors bon, il a été battu par Ruiz avant la limite il y a 2 ans. Il a pris sa revanche en 12 août lorsqu'il y avait eu en Arabie Saoudite, on s'en souvient. Donc,
ouais,
cette victoire en match revanche, il n'a pas été convaincant. On a vu. Moi, je ne pense pas. Il faudrait un concours de circonstances. Ça veut dire qu'il part s'isoler pendant 6 mois. Mais vraiment. Et puis qu'il travaille, qu'il retravaille. Il n'est pas usé, physiquement, c'est sûr. Mentalement, est-ce qu'il en a envie? C'est une autre histoire. Et est-ce qu'il a les aptitudes techniques, je dirais physiologiques, pour modifier et s'améliorer encore? Ça pose des questions.
Ouais.
J'ai pas la réponse, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Vu justement la vie qu'elle a
chine,
l'argent et voilà. Et
une toute dernière question, Jean-Philippe, avec Vic Nash.
Moi, je voulais savoir, parce qu'on a pas eu le choix, etc. Moi, je voulais savoir par rapport à Usyk, selon vous, jusqu'où il peut y aller? Parce qu'il a déclaré après le combat que ça a été le combat le plus important de sa carrière, mais pas le plus difficile.
Ouais.
Donc, jusqu'où il peut y aller?
Oui, c'est vrai. C'est pas le plus dur. Moi, je me souviens, j'étais au bord du ring lorsqu'il a remporté le super tournoi de tous les lourds légers dans le cadre d'une compétition sur 2 ans, donc un an et demi, un super tournoi avec tous les détenteurs des titres. Il a battu Briedis, le boxeur de Riga. Il a battu au point, c'était hyper serré. Et Briedis, c'est un petit gabarit, enfin, d'un 87, il a posé problème. Donc, c'était son match le plus dur, celui-là. Il faisait référence à celui-là. Maintenant, est-ce que Zik peut progresser? Non, mais s'il maintient ce niveau, c'est super fort. C'est-à-dire que Zik en lourd, il peut inquiéter et battre tout le monde, sauf Tyson Fury. Sauf Fury. Voilà, sauf Fury, si Fury reste lui-même. Si Fury, voilà. Mais Zik, c'est très fort, c'est très complet. Donc, il aspirait qu'à une chose, retrouver sa famille, parce qu'il s'est isolé pendant de nombreux mois pour se préparer, vraiment. Il parlait
c'est dur, une préparation.
De 3 enfants, voilà, et de retrouver sa famille. Il ne pensait pas, le match revanche est signé, c'est parti du contrat, il espère qu'il aura lieu à Kiev, on verra ce qui se passera dans plusieurs mois, mais pour l'instant, Alexander Usyk avait la tête à sa famille, retrouver une vie normale, il s'est donné, il vient à la lumière, il
sort, allez, le repos.
C'est sûr, il ne va pas s'embourgeoiser, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, parce que ces Ukrainiens, ils sont extraordinaires. Ils méritent toutes les éloges. Et voilà, donc, mais c'est
on
bien.
Verra bien.
C'est super.
Et on en reparlera avec vous, Jean-Philippe Lustig. Un grand merci. On le rappelle. Non, vraiment, on le rappelle. Le grand livre de la boxe aux éditions Marabout. Un grand merci pour, voilà, d'avoir passé un petit moment avec nous et aussi pour le plus grand plaisir des auditrices et des auditeurs de Beurre FM. Merci, Jean-Philippe.
À très bientôt.
À très vite. On va poursuivre avec les Gunners d'Arsenal.
Time Sport. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps.
Oui. Eh oui, avec Nash. On n'a pas Mourad avec nous ce soir. Ni Louis-Marie, justement, pour parler de ce beau jeu à l'anglaise. Mais la jeunesse au pouvoir. Eh oui, les canonniers londoniens l'ont remporté ce dimanche face à un Tottenham 3-1. Vic Nash.
Bah justement, en fait, là, c'est la troisième victoire d'Arsenal d'affilée. Donc, ça peut être un renouveau d'Arteta, comme diraient certains. Donc du coup ça montre
c'est trop
que
tôt pour le dire.
Ouais, toi aussi.
Bah, après, ouais, trop tôt pour le dire, ça, je suis d'accord avec toi. Non, oui, c'est trop tôt, bien évidemment.
C'est tout. Mais après, OK. On verra demain avec le Paris Saint-Germain, on va en parler.
Vraiment dans le caniveau.
Oui, ce que j'allais dire, mais Tottenham, ils ont bien commencé mine de rien le championnat. Là, c'est plus compliqué pour eux à l'inverse d'Arsenal.
Toujours bien. Même la saison dernière, excuse-moi de couper. Mais Tottenham commence toujours bien la saison dernière avec Mourinho. Ils étaient leaders à l'automne et derrière ça a été la soupe à la grimace. Franchement, tu vas pas
confondre Mourinho et le
coach de Tottenham. Non, je suis pas en train de. Non, c'est pas.
Il est pas mal ce coach de Tottenham.
Non, je suis pas en train de comparer Mourinho et Nuno Espirito Santo. Je suis juste en train de te dire que pour moi, il est trop tôt pour tirer des conclusions. C'est vrai qu'Arsenal a un regain et un peu de bons résultats avec 3 victoires d'affilée. Maintenant, je trouve qu'il est trop tôt, c'est trop prématuré pour parler d'un retour aux sources des canonniers.
Mais après, ce qui est intéressant avec Arsenal, c'est qu'on savait qu'ils avaient une bonne génération avec des jeunes, etc. Et là, on les voit enfin au pouvoir. On a vu de Saka, il a fait un beau match. Moi, j'ai trouvé qu'il a été très bon, particulièrement lui, les autres aussi. Hein. Mais Saka a été très bon après qu'il soit critiqué durant l'Euro, etc. Alors, il est revenu à un bon niveau et les jeunes prennent le pouvoir. Donc, ça, c'est bien.
Juan José, Frédéric.
Moi, je vais rejoindre.
Ça a été un très beau match. Ils ont tenu, ils ont fait un superbe match pendant 1 heure, même s'ils sont venus ils ont senti la fatigue la dernière demi-heure, mais il faut pas non plus s'emballer. Quand vous regardez de près Arsenal, c'est une équipe qui aujourd'hui encore a un score négatif. Hein, ils ont que c'est plus que marqué, c'est la réalité. Et ils sont quand même à 400 points de la tête du championnat. Et ils n'ont pas montré des grosses performances ces dernières années. Et surtout le fait, et c'est important certainement, le fait d'avoir gagné 3 matchs d'affilée, c'est pas mal, mais ça veut rien dire par rapport aux matchs qui restent à venir. Regardez cette dernière journée anglaise, les résultats bizarres. Vous avez City qui va s'imposer, mais Manchester qui perd à domicile. Enfin, voilà, ça a été une journée un peu compliquée, un peu difficile. Donc c'est bien pour Arteta parce que là il va respirer un tout petit peu. Il a donné du temps de jeu aux jeunes et ça c'est très bien. Mais pour ça il faut du temps.
Frédéric, avant la pause, la dernière.
Arteta va avoir un peu de répit parce que Arteta out, on l'entendait depuis le début de la saison. Là, je pense qu'il va pouvoir travailler tranquillement.
Des fois, des cris.
Maintenant, là où je rejoins complètement Hervé, c'est qu'il va falloir se calmer.
Ouais.
Ils ont eu 3 victoires consécutives. C'est bien pour la confiance. Ça leur donne peut-être que ce sera un déclic pour Arsenal. Maintenant, c'est une équipe qui a joué Tottenham. Et là où je vais aller complètement dans le
Alors, vas-y.
Tottenham, c'est une équipe qui reste quand même sur 3 défaites consécutives. ils ont, là en ce moment, ils sont dans un moment cauchemardesque. Mmh. Harry Kane, il est perdu sur le terrain. Je pense qu'il se rend compte qu'il ne gagnera peut-être pas de titre durant l'intégralité de sa carrière, qu'il a raté le train, il aurait dû partir avant. Donc Arsenal a un regain de forme. Maintenant, on va pas se leurrer, cette équipe de toute façon n'a pas les capacités de viser le top 4 en Angleterre. Ils pourront faire au mieux jouer l'Europa League, et encore va falloir aller chercher cette place qualificative là. Donc je pense que c'est bien pour Arsenal, on va laisser Arteta travailler. Maintenant, il faut pas s'emballer avec cette équipe qui peut pas viser très haut dans le championnat.
Oui, Hervé, rapidement.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric. Franchement, j'ai rien à ajouter. C'est juste Arteta vient juste de s'acheter un sursis, en fait, un moment de répit qui va lui permettre peut-être de mieux travailler après de là à... enfin tout à l'heure tu parlais de terminer dans le top 4. Je suis même pas sûr qu'il termine dans le top 6.
Dans top 6,
pour moi,
c'est
même Leicester, c'est supérieur à Arsenal. Donc,
même à l'époque d'Arsène Wenger,
ouais.
il manquait toujours quelque chose à Arsenal. Et Arsenal, ils ont pas, dans la gestion d'Arsenal au niveau des mouvements de transfert, dans la gestion, ils ont pas les moyens de prendre des joueurs pour faire une grosse équipe. Ils font des coups sur des jeunes.
Elle est d'accord entre ces.
Ils font des coups, ils font des coups sur des jeunes. Thierry Henry, il a été obligé de partir à Barcelone pour gagner la Ligue des Champions. Ouais. Patrick Vieira, c'est
la Juve.
Ouais, il est parti à la Juve. Ils sont tous, ils ont, c'est que des joueurs. Moi, je dirais que c'est un club comme l'Ajax.
Ouais. Comme enfin, c'est Boula qui le dit. Ouais. Merci Boula. On va faire une dernière pause, c'est promis, et on va revenir avec le Paris Saint-Germain et ce groupe A en Champions League dès demain soir face à l'ogre anglais Manchester City, et sans oublier aussi la 100e victoire de Lewis Hamilton. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission, ce lundi soir, on le rappelle. Time Sport, 20h, 21h, juste après l'émission, votre quotidienne désinformée avec Adil Farkan, que vous retrouvez chaque soir à partir de 19h sur l'antenne de Beurre FM. Et nous, après la quotidienne sportive, justement en compagnie de Frédéric, de Viknesh, Boula, Hervé, sans oublier Juan Trossé. Allez, on prend la direction de la Porte d'Auteuil.
Time Sport. Le duel.
Oui, un sacré duel entre ces phases de groupe. Le groupe A, deuxième journée de cette fameuse Champions League, édition 2021-2022, où on espère un club français sera sacré champion d'Europe, pourquoi pas. Et ça commence déjà avec demain ce match opposant le Paris Saint-Germain à Manchester City. Entre ces.
Alors, est-ce qu'on va retrouver le PSG qu'on attend, celui qu'on n'a pas vu
on
du, côté, du côté des Bruges? Est-ce qu'on va le retrouver? C'est un match qui a tous les ingrédients pour être un grand match. Là, c'est vraiment un grand match, un grand duel entre deux équipes qui ont envie de se retrouver, qui ont envie de démontrer qui est le plus fort. D'un côté, forcément, le PSG avec Messi qui va retrouver le chemin du terrain de jeu. Et d'un autre côté, un City qui a malheureusement pour Guardiola perdu cette finale de la Champions League. La réalité aujourd'hui est de savoir si ce PSG, on va le retrouver. La réalité est de savoir si Neymar et Mbappé vont être aussi capables de jouer ensemble.
Il y en a qui disent non maintenant.
Vous savez qu'il y a quand même une petite histoire commune entre Messi et Neymar. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont joué très longtemps ensemble. Ils ont voulu l'un et l'autre se retrouver à maintes reprises, essentiellement du côté de Barcelone, mais ils l'ont fait du côté de Paris. Et le dindon de la farce, je l'ai répété mille fois, c'est Mbappé. Et les déclarations qu'il a pu ou pas fait lors du dernier match, quand il a été remplacé sur les passes ou les papasses de notre ami Neymar, montrent à quel point, effectivement, ce match va être entre Mbappé et Neymar, va être un match dans les matchs, parce que nous tous, on va scruter le nombre de passes qui vont être données l'un ou l'autre, justement, pour essayer de marquer et de battre City. C'est un grand frère.
Frédéric Hervé, avec Boula, avec Neige.
Non, mais moi je.
Alors, on va voir,
Frédéric. Qu'est-ce qui se passe pour Mbappé? Parce qu'il y a quelques mois, il a eu un problème avec Giroud, où il s'était plaint que Giroud avait dit qu'il passait pas le ballon. Bon, là, c'est pas devant les journalistes, mais apparemment, il se plaint quand même que Neymar lui passe pas le ballon. De toute façon, c'est une guerre d'ego, finalement. Parce que ces joueurs-là, ils veulent briller, ils veulent marquer, et quand l'un, visiblement, ne marque pas, ou que l'un ne fait pas la passe à l'autre, il y a des soucis. Je pense que, de toute façon, c'est à Pochettino de gérer ce problème-là, c'est un problème d'entraîneur, c'est lui qui doit tenir le vestiaire. Maintenant, je doute de sa capacité à pouvoir le faire, parce que il n'a pas encore entraîné de star. je considère pas Harry Kane comme une star. Donc on arrive là avec un entraîneur qui n'a pas géré des vestiaires avec des superstars, des joueurs qui ont
Serge
un
niveau Aurier, surdimensionné.
Arrête quand même.
Tanguy Ndombele peut-être.
Donc je pense que ça va être compliqué à gérer, surtout qu'il y a aussi Messi. Donc tu rajoutes un troisième ego à cette équipe. Donc c'est bien d'avoir des stars, mais il va falloir un collectif. Et pour gagner la Champions League, il faut un collectif fort. City a un collectif fort. Il va falloir que Paris démontre demain que leur collectif est présent.
Ouais, mais moi, je pense que le problème, c'est pas Kylian. Kylian, il a 22 ans. Les autres, ils sont plus en fin de carrière que Kylian. Kylian, lui, il a rien demandé. On lui met Messi entre les pattes. Neymar, ça fait un an.
Ouais, ça fait même bien.
On lui met Messi entre les pattes, qui a un ego.
Voilà,
à Barcelone, qui a un ego de folie.
Ouais.
Qui a un ego de folie. Maintenant, Messi, il est plus discret que Neymar. Neymar, il veut à tout prix jouer avec Messi. Et Messi, il veut à tout prix jouer avec Neymar. Et ça, Paris, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de faire partir.
Le problème arrive.
Voilà, avec raison. De Madrid. Et ça, je l'avais dit que pourquoi il fallait qu'il parte, Kylian. Parce que le problème entre Kylian et ces joueurs-là, et quand tu parles d'ego, le plus dramatique dans le football, c'est l'ego. Et aujourd'hui, je me mets à la place de Kylian. Il est venu à Paris. Et déjà, c'est tout à son honneur d'aller jusqu'au bout de son contrat.
Ouais.
Il n'est pas parti. Il n'est pas parti.
C'est noble, selon toi.
Il a une belle prime, hein, donc bon.
Mais il a une belle prime. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il a une façon de gérer sa carrière. Il la gère très très bien.
Ouais. Hervé, il en pense quoi ?
Pour moi, justement, la brouille entre Mbappé et Neymar.
Ça commence.
Moi,
c'est pas bon, ça.
C'est un faux débat.
Ouais.
Pour moi, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Qui est, pour moi, c'est, on est en train d'assister encore une fois à l'une des dérives de la starification du footballeur.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est analysé, scruté, observé, interprété, surinterprété. On a eu, la dernière fois, l'histoire entre Pochettino et Messi qui a occupé la sphère médiatique pendant une semaine. Là, c'est, Mbappé et Neymar. Pour moi, je pense que ce sont des faux débats. Enfin, Boula pourra mieux en attester que moi. On sait tous que dans un vestiaire, les mecs sont pas toujours les meilleurs amis. Tu peux, et même dans le monde civil. Combien de rédactions, y a des mecs qui se disent même pas bonjour. Et là, on voudrait nous faire croire que parce que les mecs, ce sont des footballeurs, qui sont millionnaires, qui sont des stars, qui doivent être amis, qui doivent manger ensemble, faire des photos ensemble, faire des bisous ensemble. Non. Je pense que c'était un moment de frustration qu'Mbappé a manifesté. Moi, j'étais au parc, il a pas fait un bon match.
Ouais.
Pourtant, il a eu plein d'occasions, comme Neymar. Voilà, je pense que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Je pense que c'était un moment juste sur le moment. Un moment de chaleur, un moment de frustration.
Vic Nesh.
Et on revient à Boula. En fait, Mbappé, il est sorti. Là, il était énervé. Sur le coup de l'énervement, il a prononcé ses mots. Et maintenant, avec les caméras, on voit tout. On fait des débats sur tout. Donc là, c'est un faux débat, comme a dit Hervé. Mais après, il faut noter que ça va devenir un vrai débat parce que Messi, Neymar, il y a une connexion entre eux. Et là, on a vu pour les peu de minutes où les trois, ils ont été ensemble.
Ouais,
on a vu que Mbappé, il était mis de côté. Il n'avait pas énormément de ballons, il n'avait pas énormément de passes. Non, c'est juste mathématique, ce sont les faits. Non, c'est comme ça. Bah, on a juste à voir les passes.
Moi, je veux juste poser une question.
Vas-y.
J'ai l'impression, je voudrais pas être mauvaise langue, mais que depuis quelques semaines, il y a une sorte de cabale médiatique qui s'organise contre Mbappé. Le mec qui au printemps dernier.
On l'a toujours défendu, Kylian.
On me souvient après le triplé qu'il a mis au Camp Nou, on l'a censé Mbappé futur Ballon d'Or sur plein de
pourquoi pas.
Je ne citerai pas le nom.
Tout comme Karim Benzema.
Et depuis le mois de juin, depuis l'Euro, depuis l'histoire avec Giroud, depuis son faux départ au Real, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petite campagne médiatique qui s'organise contre Mbappé.
Je suis pas sûr. Au niveau des médias, Mbappé, il va soutenir. Non.
Hervé, je le rejoins à 100%. Il y a eu le problème de l'équipe de France. Mais l'équipe de France, Mbappé, il n'est pas responsable de ce qui est de ce qui est politique par rapport à l'arrivée de Benzema.
Il a rien à voir.
Non, mais tu dis qu'il a rien à voir. Lui, le talent du joueur, il a rien à voir.
Mais oui.
Mais tu prends un mec comme Deschamps, qui a l'habitude de gérer un groupe. Et le groupe, il l'avait plus dans les mains comme il avait l'habitude.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a eu un problème avec l'équipe de France. Et tu regardes les stats de Kylian au PSG depuis le début de saison.
Ouais.
Il est meilleur dans les stats. Il est meilleur que Neymar et que Messi. Alors je pense que Mbappé, je pense qu'il faut le laisser tranquille.
Ouais.
C'est un pur produit français. C'est notre produit. Et jusqu'à maintenant, il a toujours été irréprochable dans ses performances, dans sa qualité, dans sa gestion au niveau de la presse. Il a toujours été bon. Aujourd'hui, il est dans une situation qui est pas évidente parce que c'est une équipe qui est faite à coup d'argent et cette gestion, elle est pas évidente pour Kylian.
Ouais.
est-ce qu'on a déjà vu un grand joueur qui ne se fait pas critiquer et qui n'est pas dans la polémique? Je suis désolé, Messi se fait critiquer, Cristiano Ronaldo se fait critiquer. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur de taille mondiale qui ne se fait pas critiquer? On va pas commencer à les dire qu'il y a une cabale contre Kylian Mbappé. Il se retrouve d'ailleurs dans la polémique souvent à cause de lui-même. Ça veut dire quand il y a l'affaire avec
Chine,
il est pas obligé derrière d'aller remettre une couche dans les médias. Il le fait, il a voulu faire une conférence de presse pour s'exprimer par rapport à ça. Quand il y a la polémique par rapport à son faux départ au Real, c'est parce qu'il n'a pas pris la parole. Il était pas obligé d'ailleurs de s'exprimer et de dire qu'il restait au PSG ou qu'il comptait aller au Real. Non, mais ça, à la base, ça vient de lui. Donc je suis quand même hyper surprise.
Il y a deux joueurs. Fred, il y a deux joueurs qui sont protégés au niveau média. C'est les Ballons d'Or.
Ah, parce que tu vois
oui. Parce que les ballons d'or, il faut que tu saches que les ballons d'or FIFA, c'est un business. C'est un business et ça rapporte énormément d'argent. Alors, j'estime qu'il y a des joueurs qui ont été exceptionnels, comme Ribéry, fut un temps, il a pas eu son ballon d'or, comme Ramos. Pareil, au Real de Madrid, il méritait un. Moi, j'ai vu un Italien avoir un ballon d'or. Tout le monde était étonné. Mais moi, j'étais pas étonné. C'est Cannavaro.
Ouais, alors, en 2006,
les joueurs offensifs, sacré, ils ont le droit.
Alors, il y a un truc intéressant, que vous avez dit qui m'étonne, quoi.
Alors,
c'est que quand vous dites que c'est un faux débat.
Ouais.
Ce n'est pas un faux débat quand tu as deux joueurs qui coûtent à eux seuls pratiquement 100 millions d'euros par an. Pratiquement. Non, c'est pas un faux débat. Quand tu as des joueurs, quand tu as vendu comme la meilleure attaque de l'histoire du football, c'était pas du tout un faux débat.
Ouais.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit à l'époque où Griezmann est arrivé
au Barça? On peut ressortir les replays.
Si Messi passait ou passait pas la balle à Griezmann.
Bilal, il y a un truc qu'il faut savoir dans le football, c'est que les mecs ils sous-estiment le championnat français. Mais tu prends, comment il s'appelle, l'attaquant de l'Atlético de Madrid qui a été à Monaco. Ça a été très dans le jeu, ça a été très compliqué parce que les défenses ici,
mais sur la fin,
ils sont attends. Les défenses, ils sont compacts et ça défend très très bien en France. Et aujourd'hui, les joueurs, ils ont pas aujourd'hui les joueurs techniques comme Messi ou comme Neymar. Tu prends Neymar, est-ce qu'il s'est vraiment imposé en France? Est-ce que vraiment ça a été une figure du football?
Élu meilleur joueur du championnat quand il avait joué qu'est la moitié de la saison.
Mais ça, c'est médiatique, ça.
Ouais. Non, mais bon, c'est médiatique.
Il faudrait arrêter les votes, que ça soit les journalistes qui votent le ballon d'or. Moi, pour moi, c'est le public qui doit voter le ballon d'or. C'est eux qui regardent, c'est eux. Parce que les journalistes, c'est que de l'intérêt ou du business.
Merci. Juste pour les journalistes.
Moi, je voulais juste répondre à ce que disait Juan José. Quand je disais que c'est un faux débat, je disais qu'aujourd'hui, dans les médias, on est dans une surenchère, en fait. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est obligé de s'attarder des semaines sur, tout à l'heure, tu citais la fausse polémique entre Griezmann et Messi, là, entre Neymar et Mbappé. Je pense que tout ça, ce sont des épiphénomènes. Je pense que dans les vestiaires, comme le disait tout à l'heure, justement, Frédéric, il y a beaucoup d'ego. Et des fois, sur un match, parce que t'es frustré, parce que les choses ne t'as pas la réussite que tu souhaiterais avoir, parfois tu peux avoir une réaction qui est tout à fait humaine, qui est peut-être pas forcément correcte, mais voilà, tu l'as, en fait. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que depuis quelques années, il y a beaucoup de polémiques qu'on voit dans les médias qui servent juste à meubler de certaines émissions. C'est juste là pour meubler.
Ouais.
Ça sert à rien. Enfin, je veux dire, Mbappé, Neymar, ils sont potes, ils sont amis.
Merci. Oui, Frédéric, on termine sur le Paris Saint-Germain avant de prendre le chemin de la FIA et la Formule 1.
Les 5-6 derniers matchs qu'ils ont joués ensemble, on se rend compte qu'il y a moins de passes entre les deux et qu'au niveau de la surface de réparation, ils ne se passent pas le ballon. Maintenant, là où je te rejoins, c'est des épiphénomènes. Je pense que ça, tout va se remettre en place, mais il va falloir que ça se remette en place et très vite parce que la Champions League commence demain.
Allez, la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, Hamilton, Verstappen, les deux gagnants du Grand Prix de Russie. Hamilton, auteur, justement, ce dimanche, Frédéric Lévesque-Neige, de sa 100e victoire en Formule 1. Et Verstappen qui finit tout de même deuxième après s'être lancé, on le rappelle, de la 20e place. Eh oui, Hervé, C'est incroyable.
Oui, Hamilton remporte sa 100e victoire au terme d'un Grand Prix qui se sera décanté dans les 6 derniers tours. Longtemps incapable de dépasser Lando Norris, Hamilton aura su profiter de la pluie et du refus du pilote McLaren de chausser des pneus pluie pour justement décrocher cette 100e victoire qui le fait un peu plus rentrer dans le panthéon de la Formule 1. Comme tu l'as souligné, Max Verstappen, le Hollandais fougueux, a limité la casse, puisque comme tu l'as dit, il s'est lancé de la dernière grille, la 20e place, pour terminer deuxième. Je pense que c'est cher payé quand tu sais qu'il s'est lancé quand même de la dernière place. Et a souligné également la 3e place de Carlos Sainz, qui à défaut d'être toujours impérial, a su se montrer opportuniste et accrocher un podium qui va apporter du baume au cœur au sein de la Scuderia Ferrari. Du côté des Français, c'est un Grand Prix à oublier, puisque Pierre Gasly est terminé à une 13e place, qui ne reflète absolument pas le niveau de la AlphaTauri. Et Esteban
a
terminé 14e.
Ouais, du côté de Sochi, ce dimanche soir, on le rappelle, ce Grand Prix de Russie avec Juan José et Frédéric.
On va parler des Fangio, on va parler des Senna, des Proust, des Schumacher et des Hamilton. Il y a la 100e de victoires, c'est vrai, mais c'est celui qui a aussi le plus de positions. Donc au départ, c'est celui qui a le plus de podiums aussi. Je crois qu'il a pratiquement 170 ou 171 podiums tout au long de sa carrière. C'est celui qui a fait le plus de points dans l'histoire de la Formule 1, plus de 4000 points depuis qu'il court. Donc c'est vraiment un phénomène. Si il y a Nadal, c'est parce qu'il y a Djokovic, il y a aussi notre ami Federer. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il nous faut quelqu'un pour faire face à Hamilton. Alors, est-ce qu'on va le trouver, Verstappen? C'est peut-être trop tard pour lui. Mais le fait est, c'est que nous avons un grand sportif.
Après,
on a un très grand sportif qui vient de reprendre la première place au classement et je pense qu'il ne va plus la lâcher jusqu'à la fin. Mais je pense que là où il faut souligner la performance de Verstappen et ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est que justement il arrive à tenir la dragée haute à Hamilton et c'est la première fois depuis plusieurs années qu'Hamilton sent qu'il y a de la concurrence.
Depuis 2016.
Et ça donne une émulation à ce championnat et tout le monde regarde les courses en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'un va réussir à battre l'autre? Là, ils sont 1 et 2. On verra comment ça va se passer pour la suite, mais ça nous laisse un léger suspense. Mais je pense qu'Hamilton, il va pas lâcher.
Ouais. Moi, je pense que si. Enfin, justement, là, c'est super serré. Comme a dit Ron Rossi, il n'y a que 2 points d'écart entre les deux. Et Verstappen a largement mené depuis le début de la saison. Il ne faut pas oublier qu'il y a une embrouille entre les deux. Chaque fois, Hamilton a fait sortir Verstappen une fois, c'était Bottas aussi. Donc, Verstappen, c'est la future génération, c'est le pilote de demain. Et Hamilton, on a toujours dit, il a gagné facilement les championnats, sauf une fois contre Rosberg. Mais du coup, là, c'est serré. Et si là, il remporte le 8e titre, ça va être quelque chose d'incroyable. Verstappen, il aurait été à la hauteur. Et ça, c'est remarquable.
Un grand merci à Frédéric de m'avoir accompagné, sans oublier Vicneige, Boula, Juan José et Hervé. Et ainsi qu'à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On se retrouve dès demain à partir de 20h sur l'antenne de Beurre FM, la suite des programmes. Big up à Yacine.
Et une pensée à Sarah, notre consultante qui nous écoute aussi.
Ah ben aussi Sarah, voilà. Sarah que nous retrouverons, on l'espère, rapidement aussi sur l'antenne. Voilà. Et un grand merci aussi à Yanis, la réalisation. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.